À Libre-Échange, je m'entretiens avec la docteure Ariane Courville, qui est médecin spécialiste à la santé publique. Alors, on parle évidemment d'un premier cas du côté là, du coronavirus au Québec. Alors, bon, évidemment, côté médiatique, il y a eu des conférences de presse. On a parlé évidemment de toutes sortes de protocoles, d'un peu comment ça va se passer et aussi, bon, de rassurer la population pour pas ne pour pas paniquer. Bon, mais lorsqu'on regarde tout ça, comment ça se produira chez nous, si jamais il y arrivait un cas et on est déjà pas mal prêt, là, ben on a mis tout en place depuis, voyons, depuis un certain temps, on a parlé avec la santé publique, on est déjà prêt à faire face à la situation. Docteur Ariane Courville, bonjour.
Bonjour, M. O'Leary.
Ben, d'abord, tiens, parlons un petit peu parce qu'on essaie de régionaliser la chose chez nous. Là, on voit que le Québec est touché. Alors, tous les médias en parlent, mais voyons, chez nous, on est prêt. Il y a toujours des protocoles qui ont été établis et qui sont déjà en place. Si jamais ça survenait, un cas d'une personne qui arrivait avec des symptômes, possiblement liés au coronavirus.
Bien, tout à fait. D'abord, il faut dire qu'on était déjà prêt auparavant, pas pour le coronavirus, mais pour d'autres virus qu'on peut acquérir lors d'un voyage et qui donneraient des symptômes respiratoires sévères. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient en place. Maintenant, là, ce qu'on a fait, c'est ajouter à la liste les pays qui sont touchés présentement par le COVID-19 et puis réactiver à la mémoire des soignants là les mesures à prendre une personne se présentait avec de la toux, de la fièvre et qui aurait visité un des pays qui est sur la liste actuellement.
Oui, c'est ça, parce que là, la liste s'est étendue. Donc, j'imagine que il y a toujours des rencontres ou d'informations d'équipe où on met à jour un peu ce plan-là. Là.
Oui, bien, en effet, puis ça se passe à un niveau qui est beaucoup plus haut que nous.
Oui.
C'est au niveau fédéral qu'on détermine quels sont les pays qu'on doit considérer sur cette liste-là. Donc, il y a une structure qui est mise en place au niveau fédéral, au niveau provincial, puis au niveau régional pour pouvoir faire face à cette situation-là qui risque que tout de même de se présenter, même si on dit que pour l'instant, le risque est faible pour le Canada. Ça n'exclut pas complètement qu'on puisse accueillir dans notre région une personne qui aurait fréquenté un pays qui serait un de ces pays-là. Malade.
OK. Quel est le protocole ou comment ça va se passer? Mettons-nous là, dans la peau de quelqu'un qui ne file pas bien, j'arrive de voyage, je fais quoi? Je vais où?
Oui.
Comment ça se passe?
Ben, d'abord, en principe, quand vous allez arriver à l'aéroport, vous devriez recevoir des indications sur les symptômes de la maladie, en particulier si vous avez visité un des pays qui est sur la liste. Donc, on peut les nommer. Là. Pour l'instant, on parle de la Chine, de la Corée du Sud, de l'Iran, d'Italie, de Hong Kong, du Japon, de Singapour. Donc, vous devriez avoir reçu des instructions. Et puis, pour ceux qui proviennent précisément de la région de Hubei, en Chine, là où c'est encore qui a commencé, là où l'épicentre de la crise a débuté, on vous demande de vous isoler volontairement à la maison pendant 14 jours. Puis là, vous allez surveiller vos symptômes. Et puis, au moment où vous allez avoir présenter des symptômes de toux ou de grippe, on vous demande d'appeler le 811, donc Info Santé, pour éviter de vous présenter, par exemple, à l'hôpital sans que le personnel ait été avisé. Mais évidemment, ça peut arriver. Et puis, on est prêt aussi, si les gens ne nous ont pas avisé, à prendre en charge quelqu'un qui se présenterait sans avoir avisé à l'avance. Mais on s'entend que c'est mieux que les gens nous avisent. Donc, c'est les instructions qu'ils auront reçues. S'ils ont visité d'autres régions, là, à ce moment-là, l'isolement à la maison est pas nécessairement requis. Mais par contre, on demande tout de même de faire une auto-surveillance des symptômes, c'est-à-dire vérifier noter là, l'apparition de fièvre ou de toux. Et à ce moment-là, même chose, communiquer avec le 811. Puis là, dans le cas du COVID, là, on parle d'autosurveillance pendant 14 jours parce que c'est la période d'incubation, approximative. Là, en général, c'est moins que ça, mais par sécurité, on a mis jusqu'à 14 jours. Et puis, donc, les gens appellent au 811. Puis là, à partir de ce moment-là, on leur recommande d'aller dans un centre hospitalier, mais il va y avoir déjà un lien qui est fait avec le centre hospitalier. Donc, la personne sera accueillie. Et là, dès qu'elle met les pieds dans le centre, on lui remettra un masque, mais aussi le personnel soignant sera bien protégé. Et cette personne-là sera placée dans une dans une salle en isolement, soit une salle, une chambre à pression négative s'il y en a une disponible, sinon une salle fermée. Et là, on pourra procéder au test requis si la personne effectivement a bien fréquenté un de ces pays-là et qu'elle présente de la fièvre ou de la toux.
Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, si c'est le cas chez nous? Donc, cette personne-là, si elle connaît, bon, est-ce que si ça va bien, puis c'est parce qu'on sait que ça peut être juste le rhume, là, ou en tout cas, du moins, avoir quelques symptômes. Mais si ça s'aggrave, bon, est-ce qu'il y a des transferts? C'est pas parce qu'hier, on voyait, pas hier, mais on voyait dans la conférence de presse qui a été donnée qu'il y avait 4 hôpitaux au Québec qui étaient donc les endroits où on allait comme accueillir les patients. Est-ce que ça se fait automatique ou...
Bien, c'est ça. Comme vous le dites, il y a deux chemins possibles. Le premier chemin, c'est si la personne présente des symptômes légers qui ne nécessiteraient pas en temps normal une hospitalisation. Alors, cette personne-là, une fois le test réalisé et en attente des résultats, pourrait être retournée chez elle et là, on lui demanderait de s'isoler. Et il y aurait une surveillance quotidienne là, par la santé publique pour s'assurer que cette personne-là vraiment est bien respecte les règles de son isolement. Et éventuellement, on obtiendrait le résultat là. Puis on saurait si c'est un cas ou ce n'est pas un cas. Pour une personne qui serait plus malade et qui nécessiterait des soins, la première étape serait de l'hospitaliser ici en Gaspésie, dans un des centres. Et on attendrait, évidemment, elle serait mise en isolement, puis on attendrait le résultat de COVID. Du test. Et si ça s'avère un COVID-19 à ce moment-là et que son état le requiert, en fait, puis qu'elle est malade, là, donc là, c'est à ce moment-là qu'elle pourra être transférée. Mais il nous faut en quelque sorte la preuve que c'est bien ce virus-là avant de le transférer. En principe, notre corridor privilégié est vers Québec pour la Gaspésie. Mais étant donné qu'il peut y avoir, on peut s'attendre à être transféré à Québec ou Montréal, là, tout dépendant de la situation, aussi dans ces centres désignés.
OK. Alors là, on a parlé évidemment d'une question de protocole logistique au cas où. Mais en attendant, évidemment, les gens, c'est évident qu'on regarde ça. Mais est-ce que, donc, finalement, le coronavirus ou le COVID-19, et si dangereux que ça, et on dit que c'est surtout les personnes plus âgées ou qui ont des problèmes de maladies chroniques qui peuvent être victimes ou plus qui ont plus de problèmes?
Oui, bien effectivement, c'est un virus qui a quand même un fort taux de morbidité et de mortalité. Quand je dis morbidité, c'est que les gens, il y a quand même 20% qui vont développer des symptômes qui sont graves. Puis quand on parle de mortalité, là, on dit à peu près autour de 2% ou peut-être un petit peu plus, mais c'est quand même très élevé. Cependant, pour le moment, là, il y a un cas qui a été confirmé au Québec, mais si toutes les mesures sont prises, il y a de fortes chances qu'on n'en voit pas d'autres cas secondaires à ce cas-là. Donc, ce qui pourrait arriver, par contre, c'est... Certains pays ne réussissaient pas à contrôler complètement, et ça semble être le cas. Là, certains pays semblent avoir plus de difficultés à contrôler ce qui se passe. Eh bien là, peut-être qu'il y aura des gens qui pourraient provenir d'autres pays éventuellement. Puis là, plus il y a de pays qui sont en éclosion, hein, plus ça nous met à risque. Et donc, il va peut-être falloir augmenter encore le niveau de vigilance qui est déjà bien élevé. Okay. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, là, le risque est très faible pour notre population en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Bon, je pense aussi aux gens qui veulent voyager, hein, parce que là, on est en période de relâche scolaire. Il y avait sûrement des gens qui ont beaucoup planifié de voyager en avion, aller dans d'autres pays. Quelles sont les mesures de précaution qu'on doit prendre? Je sais que beaucoup craignent des fois l'avion en se disant, bon, c'est le pire endroit où est-ce qu'on peut attraper des virus. Est-ce qu'il est vrai de dire ça ou...
Pas nécessairement, non.
Okay.
pour diverses raisons, mais je dirais que quand on va voyager, il faut se préparer. Il y a des risques à un voyage. Puis probablement que dans bien des pays actuellement, certains pays, oui, là, il y a du COVID-19, mais dans bien des pays, là, le risque principal, ce n'est pas ça, là. Donc, avant de partir en voyage, l'idéal, c'est de consulter dans une clinique de santé voyage et mettre à jour sa vaccination, recevoir de l'information sur les maladies et vérifier que tout est beau pour voyager. Puis, des fois, on pratique aussi il y a des risques infectieux, mais il y a parfois des risques à la sécurité, puis il peut y avoir des risques liés aux activités qu'on va pratiquer. Mais la meilleure recommandation qu'on peut faire, c'est avant de partir, et peut-être même avant d'acheter des billets d'avion, vous pourriez aller sur le site voyage.gc.ca. C'est un site du gouvernement du Canada qui donne pays par pays des recommandations. Par exemple, si on va sur le site aujourd'hui, on va voir qu'en Chine, ils nous recommandent d'éviter tout voyage non essentiel. Pour la province de Hubei, c'est pas recommandé du tout de voyager. Mm-hmm. Alors, vous pouvez aller voir là, pays par pays où ce serait pas recommandé, où il y aurait certaines précautions particulières à prendre. Et puis, vous pourriez décider alors si vous partez ou pas.
Est-ce que pour les gens, là, est-ce qu'il faut s'empêcher de voyager? Pour vous, là, personnellement, est-ce que vous partiriez en voyage dans le sud de ces temps-ci? Je pense aux gens qui vont souvent dans le sud. Est-ce qu'il faut s'empêcher de voyager?
Il ne faut pas s'empêcher de voyager, mais il faut vérifier dans chacun des pays où on prévoit aller, quel est le niveau de risque actuellement, puis quel sera le niveau de risque au moment où on décide au moment du départ. Parfois, il y a des risques infectieux, comme c'est le cas pour le COVID-19, mais il peut y avoir aussi d'autres types de risques qui font en sorte qu'on ne recommande pas de voyager.
Je pensais à ça aussi au niveau de l'alimentation. On voit ça passer. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour des aliments qui proviendraient des pays où le virus est présent? Parce qu'on dit la nourriture, ben, ça se transporte. Est-ce que ça peut transporter un virus?
Non, c'est pas le mode de transmission de ce virus-là, donc il n'y a pas à craindre de la virus, de la nourriture qui serait importée actuellement. C'est vraiment en plus par des contacts là, de personne à personne, puis un contact quand même assez rapproché. Donc, c'est des petites gouttelettes là qui transportent le virus, qui en général vont infecter d'autres personnes.
OK, donc du côté alimentation, il est faux de dire qu'on pourrait... Donc, d'être contaminé avec des aliments, je ne sais pas, de l'ail qui arrive de la Chine ou des choses du genre. Là.
Non. Il n'y a pas de problème avec ça. De la même façon que les colis qui arrivent de ces pays-là, non, le virus ne survit pas longtemps sur des objets. Là. On parle de 3 heures si la surface est sèche, puis 6 heures pour les surfaces humides. Donc, ça laisse simplement le temps au virus d'être désactivé.
Alors, Dr. Ariane Courville, médecin spécialiste à la santé publique pour notre région, merci pour ces détails et ces informations et on aura l'occasion de suivre ça avec intérêt.
Merci beaucoup.